Chapitre 47. Les coudes reposant sur la table en acajou, Richard se passa les doigts dans les cheveux. Dans son état de fatigue, le livre ouvert devant lui aurait tout aussi bien pu être écrit dans une langue qu'il ne connaissait pas. Depuis son retour au palais, il avait lu tant de grimoires que tout se brouillait dans sa mémoire. Les événements qui l'avaient conduit jusqu'au palais semblaient remonter à une éternité. La finale du championnat de Djala, les meutes, la fuite de Callan avec Samuel, la bataille rangée dans les couloirs. Avec l'aide de Verna et de quelques autres sœurs, Nathan avait réussi à sauver Adi. Après avoir pris un peu de repos, la Dame des Ossements avait insisté pour continuer son voyage solitaire. Avec le sort qui affaiblissait tous les pratiquants de la magie, à part les râles, Adi était quasiment aveugle dans le palais. Richard comprenait qu'elle ait voulu partir, mais ça l'inquiétait un peu. Avait-elle vu dans l'avenir que la bataille était perdue d'avance? Si c'était le cas ici, ça le serait partout ailleurs, alors pourquoi s'en aller? La nouvelle apportée par Mefert assombrissait encore l'horizon du monde libre. Montant un dragon rouge, une voyante harcelait les troupes d'Aran infiltrées dans l'ancien monde. Si les hommes chargés de désorganiser la logistique de l'ordre ne pouvaient plus agir, la victoire finale de Jagang ne tarderait plus beaucoup. Persuadé qu'il s'agissait d'un très bon plan, Mefert s'était attelé avec enthousiasme à sa mission. Au début, tout avait fonctionné à merveille. Détruisant plusieurs convois de ravitaillement, les Daran avaient également transformé en charniers plusieurs centres de recrutement et de formation. Sans cesse mobiles, les soldats du seigneurial avaient démoli des entrepôts, saccagé des récoltes et abattu par dizaines les élateurs les plus acharnés de l'ordre. La population de l'ancien monde avait commencé à assimiler les dures réalités de la guerre, ces horreurs qu'on voulait bien voir frapper les autres, mais dont on espérait n'être jamais victime. Alors qu'ils se réjouissaient des communiqués de guerre triomphants dont on les abreuvait, les hommes et les femmes de l'ancien monde avaient à leur tour appris à avoir peur de finir égorgés dans leur lit. Du coup, les foules se pressaient beaucoup moins pour aller entendre les prédicateurs de l'ordre. Dans certaines régions, on disait même que des soulèvements étaient en cours, timides pour l'instant, mais c'était toujours ça de pris. Bien entendu, Jagang n'était pas resté impuissant face au danger. Pour commencer, il avait impitoyablement réprimé toutes les insurrections. Dès qu'une ville était soupçonnée d'avoir des sympathies pour la liberté et le mode de vie du Nouveau Monde, on la brûlait sans autre forme de procès. Avant, on soumettait ses résidents à la torture, histoire qu'ils se dénoncent les uns les autres. Puis, on organisait des exécutions de masse publiques afin que chaque rebelle potentiel sache exactement ce qu'il risquait. La culpabilité réelle des déviants ne comptait pas. Quand on avait pour objectif d'instaurer le règne de la violence et de l'injustice, désigner des coupables était bien plus utile que de laver de tout soupçon des innocents. Terrorisés, les victimes de ces purges sombraient vite dans une obéissance servile, se saignant aux quatre veines pour produire les vivres et les équipements dont avait besoin la glorieuse armée de l'ordre. La sainte terreur d'être accusé de trahison poussait les gens à offrir tout ce qu'ils avaient au titre de contribution à l'effort de guerre. Du coup, malgré les sabotages des Daran, le ravitaillement continuait à affluer dans le camp de l'ordre. Se souvenant de l'arrivage massif de jambon pendant les rencontres de Djala, Richard conclut que la stratégie de Jagang fonctionnait parfaitement, en tout cas jusque-là. Car les Daran savaient s'adapter et trouver des parades. Comme sur un terrain de Djala, l'art de la guerre consistait à savoir imaginer sans arrêt des tactiques et des contre-tactiques. Le premier camp à court d'inventivité finissait vaincu, c'était aussi simple et aussi radical que ça. La dernière manœuvre de Jagang allait bien au-delà de cet échange continu de coups et de parades. L'empereur avait envoyé un dragon rouge et une voyante, six d'après les rares descriptions disponibles, traquer les soldats d'Aran infiltrés. D'expérience, Richard savait que l'altitude, en d'autres termes le repérage aérien, était un adjuvant précieux lorsqu'on tentait de localiser des troupes. Cette méthode de balayage du terrain, alliée au pouvoir mortel d'une voyante, risquait de peser lourd sur l'issue du conflit. L'initiative de Jagang réduisait dramatiquement l'efficacité des attaques au cœur de l'ancien monde. Mais ce n'était pas tout. Beaucoup de soldats étaient morts, massacrés, sans même pouvoir riposter. Et la tâche des survivants en devenait plus difficile encore. En semant la terreur à la fois parmi ses sujets et chez ses adversaires, Jagang avait obtenu la seule chose qui comptait pour lui, les moyens de mener jusqu'à son terme le siège du palais du peuple. Désormais, la pression était dans le camp des défenseurs, et ils ne paraissaient pas en mesure de la supporter. Quand la rampe serait terminée, et si elles avaient entre-temps découvert d'autres voies d'accès souterraines, les forces de l'ordre pourraient attaquer par le haut et par le bas. De toute façon, au bout du compte, la rampe seule suffirait. Une attaque de ce type ne serait pas économe en vie humaine, mais cette variable-là n'entrait jamais en ligne de compte dans les calculs de Jagang. Pour lui, seul l'importait la victoire et le prix à payer ne comptait pas. Une fois le palais conquis, la cause de la liberté n'aurait plus l'ombre d'un défenseur. Alors un linceul d'obscurantisme et de terreur tomberait sur le nouveau monde. L'ultime espoir de Richard restait l'utilisation judicieuse des boîtes d'Orden. Pour l'heure, il n'en détenait aucune. Mais de toute façon, il ne savait pas s'en servir. Pour commencer, il allait essayer d'apprendre. Depuis toujours, le savoir était une de ses armes les plus efficaces. Une fois de plus, beaucoup de choses allaient se jouer dans les livres. Nietzsche et lui travaillaient depuis des jours dans une bibliothèque privée dont les ouvrages sulfureux étaient, selon Burdin, réservés au seul seigneur Rall. À tout hasard, des champs de force surpuissants protégeaient la porte d'entrée à double battant. Darkenrall avait souvent eu recours au talent de traductrice de Burdin, une des meilleures spécialistes au monde du Haut-Daran. Pourtant, elle était très rarement entrée dans cette salle, car Darkenrall y venait en général seul. « Un excellent endroit pour commencer leurs recherches », avaient pensé Richard et Nietzsche. Avec l'aide de Verna et de presque toutes ses sœurs, Burdin écumait les autres bibliothèques. Tous les ouvrages susceptibles d'être utiles finissaient entre les mains de Nietzsche. Opérant une première sélection, elle transmettait les plus pertinents à Richard. L'ancienne maîtresse de la mort assurait aussi une certaine tranquillité à son ami, afin qu'il puisse se concentrer sur ses lectures. Depuis quelque temps, Richard avait l'impression de vivre en reclus. Une impression justifiée, mais il avait besoin de cet isolement pour aller jusqu'au bout de sa mission. Dans ce sanctuaire privé, les livres étaient rangés sur des rayonnages, le long des murs, à hauteur d'homme pour que le maître des lieux ne s'embête pas à grimper sur un tabouret ou une échelle. Au centre de la salle, des fauteuils et des sofas confortables attendaient le bon vouloir du seigneur Rall. Dans ces conditions, on se sentait davantage dans une étude privée qu'au milieu d'une grande bibliothèque, et tout était fait jusqu'à la décoration pour accentuer ce sentiment. Richard n'avait pas encore gravi l'escalier en colimaçon qui conduisait à une promenade circulaire. Nietzsche l'avait fait, dénichant sur d'autres discrets rayonnages des livres qu'elle jugeait indispensables à la culture magique de son ami. Même si tout était fait pour qu'on se sente dans son salon, la discrète bibliothèque contenait des milliers d'ouvrages. Ce qui intéressait Nietzsche et Richard était très rare et très précieux. Malgré ces critères très sélectifs, la table de travail du sorcier était recouverte de piles de trésors dénichés par Nietzsche. Dans ce refuge, hors du temps et de la vie, on ne savait jamais s'il faisait nuit ou si on était en plein jour. Ouvrir les rideaux qui protégeaient apparemment les fenêtres n'aurait servi à rien, car ces trompe-l'œil dévoilaient simplement un carré supplémentaire de murs lambrissés. Déconcertante au début, cette illusion accentuait la quiétude de la salle et incitait au travail et à la concentration. Dans cette atmosphère feutrée et luxueuse, Richard aurait dû se sentir apaisé, presque détendu. Au contraire, il écumait de rage et ne prenait même pas la peine de le cacher. Le sourcier et l'ancienne maîtresse de la mort travaillaient pratiquement sans prendre de repos. Pour qu'ils ne perdent pas ce temps, on leur apportait de la nourriture sur place. Et quand l'un des deux ne parvenait plus à garder les yeux ouverts, il faisait une sieste sur l'un des confortables sofas. Jamais très loin de Richard, Nietzsche sélectionnait sur les rayonnages les grimoires qui lui semblaient intéressants. Puis elle les feuilletait afin de savoir s'ils méritaient une lecture approfondie par Richard. Le plus souvent, elle finissait par les remettre en place en soupirant. Même s'il faisait l'effort d'étudier les ouvrages, le sourcier brûlait d'envie d'agir. Partir à la recherche de Callan, voilà ce qu'il désirait plus que tout au monde. Hélas, ce n'était pas si simple. Avant de se lancer dans cette aventure, il devait apprendre à utiliser la magie ordénique, et vite, avant qu'il soit trop tard pour redresser la situation. Tout seul, il n'avait aucune chance de réussir. Sans hésiter une seconde, Nietzsche s'était déclarée prête à l'aider et elle ne ménageait pas sa peine. Pour commencer, elle lui avait prodigué un cours exhaustif sur les champs stériles, un sujet qu'il devait maîtriser sur le bout des doigts s'il voulait avoir des chances de succès. Incapable de contrôler son pouvoir, Richard n'était pas un expert en magie, loin de là. Grâce aux patientes explications de son ami, il avait fini par comprendre le principe. Désormais, il saisissait pourquoi Callahan ne devait surtout pas savoir ce qu'était son passé avant d'avoir récupéré ses souvenirs. Les sorciers qui avaient créé la magie d'Orden afin de combattre la chaîne de flammes étaient convaincus que toute préconnaissance de la vérité, surtout sur un plan émotionnel, fausserait les effets du sortilège correcteur, en l'occurrence l'ouverture de la bonne boîte. Au début, Richard s'était montré ouvertement sceptique. Nietzsche lui avait alors répété l'exemple choisi par Z. S'il avait su comment il était possible d'aimer une inquisitrice sans être détruit par son pouvoir, Richard n'aurait jamais réussi à vivre pleinement sa relation avec Callahan. Face à un problème particulier, le jeune homme avait improvisé une solution. Sans rien révéler sur la solution en question, le vieux sorcier avait confirmé à Nietzsche qu'il la connaissait. Mais il s'était bien gardé de la dévoiler à son petit-fils pour ne pas ruiner toutes ses chances. Richard avait démontré l'exactitude de la théorie ordénique sur un point capital. La spontanéité était indispensable au bon fonctionnement de la magie. Entre autres raisons, c'était pour ça que les prophéties étaient le plus souvent incompréhensibles et sujettes à une multitude d'interprétations. Richard savait d'expérience que Nietzsche disait vrai, même si sa vision du problème était un peu lacunaire. Si Z lui avait dit ce qu'il fallait faire pour aimer une inquisitrice, il aurait échoué parce que seul son instinct lui avait permis de ne pas être frappé par le pouvoir destructeur de Callahan à un moment bien précis de leur relation. Dans le même ordre d'idées, si elle apprenait qu'elle était l'épouse bien-aimée de Richard, Callahan ne pourrait pas bénéficier des effets salvateurs de la magie ordénique. Ce que les antiques sorciers tenaient pour une théorie était tout simplement la vérité. Les chances stériles et la préconnaissance ne faisaient en aucun cas bon ménage. Pour sauver Callahan, il devrait donc lui mentir, ne serait-ce que par omission. Cette idée lui déchirait les entrailles, car il n'avait jamais menti à sa compagne. Mais pour l'heure, ses tourments de conscience n'étaient pas d'actualité. Si le dilemme se posait un jour à Richard, il pourrait s'en féliciter parce qu'il lui restait beaucoup de choses à apprendre avant d'en arriver là. De ses lectures d'ouvrages historiques et de grimoires antérieurs aux Grandes Guerres, Nietzsche avait pu tirer une théorie au sujet du don de Richard et de la manière dont il fonctionnait. Bien entendu, le sorcier aurait été un peu plus à l'aise s'il avait suivi un enseignement magique dès son enfance, mais l'essentiel du problème n'était pas là. Le pouvoir d'un sorcier de guerre se distinguait très nettement de celui d'une magicienne ou d'un sorcier classique. Comme pour tout ce qui concernait l'épée de vérité, les émotions étaient le vecteur essentiel dans le cas de Richard. En un sens, l'arme était le reflet fidèle de la manière dont Richard gérait instinctivement sa magie. L'épée se laissait aveuglément guider par les convictions du sorcier qui la maniait. Incapable de frapper un ami de son propriétaire, elle détruisait impitoyablement toute personne qu'il tenait pour un ennemi. Dans cette affaire, la réalité objective ne comptait pas. Pour orienter la magie de l'arme, seuls les sentiments du sorcier importaient. Le don d'un sorcier de guerre obéissait au même principe. Les sentiments d'un être humain, et par extension ses émotions, étaient la somme de tout ce qu'il avait vu, expérimenté, assimilé et mémorisé au cours de sa vie. Cette totalité était présente dans chaque réaction d'un individu. En d'autres termes, il s'agissait d'un bagage qu'il ne pouvait en aucun cas laisser derrière lui. Mais cela, bien entendu, n'impliquait pas que ce viatique soit correct d'un point de vue philosophique ou éthique. Dans le cas de l'épée, le don d'un sorcier de guerre réagissait en fonction de l'échelle des valeurs intimes de son détenteur. Tout ce qui concernait les justifications morales était du ressort de l'intellect, l'indispensable complément de la magie, puisque n'importe quel outil dépendait des intentions de celui qui le maniait. Cela expliquait pourquoi la désignation du sorcier était une tâche si délicate. En cas d'erreur, on se retrouvait avec une personne inapte à prendre les bonnes décisions, mais en pleine possession d'une puissance destructrice. Il y avait, entre l'épée et le don de Richard, un autre point commun, la colère. Dans le contexte d'un conflit, ce sentiment s'opposait tout simplement aux menaces qui pesaient sur les valeurs essentielles aux yeux de Richard. En toute logique, il avait la capacité d'éveiller son don, puisque la magie d'un sorcier de guerre était par nature au service de ses convictions et de ses croyances les plus profondes. Selon Nietzsche, il se pouvait fort bien que Richard ne sache jamais contrôler son don comme une magicienne ou un sorcier lambda. Un guérisseur ou un prophète, par exemple, ne poursuivait pas les mêmes objectifs. Pour l'essentiel, il visait à soulager ou à comprendre, pas à détruire. Un sorcier de guerre, lui, était programmé pour tuer. Et quel meilleur déclencheur que la colère pouvait-on imaginer? La volonté de conquête, la soif de sang, l'ivresse du pouvoir, tout ça était bon pour les tyrans et les malades mentaux. Richard avait assimilé toutes ces informations avec intérêt, car elles l'aidaient à mieux comprendre ses contradictions, ou plutôt ce qu'il avait toujours tenu pour tel. Mais sa préoccupation essentielle restait plus prosaïque. Apprendre à maîtriser la magie d'Ordaine afin de neutraliser les effets du sort d'oubli. Nietzsche n'avait pas caché son trouble devant les symboles que Richard avait peints sur lui-même et sur ses joueurs. Du premier coup d'œil, elle s'était aperçue que le sorcier avait combiné des éléments familiers d'une manière totalement inédite. Mais comment avait-il réussi à intégrer dans l'équation des variables qui appartenaient à la magie ordénique? La réponse de Richard avait été d'une déconcertante simplicité. Une partie des runes dessinées par Darkenral pour ouvrir la bonne boîte d'Ordaine se retrouvait dans la représentation graphique de la danse avec les morts, et ces emblèmes-là, il les connaissait sur le bout des doigts. Cette association était parfaitement logique. Comme Zed l'avait un jour dit à Richard, la magie d'Ordaine était en fait celle de la vie. La danse avec les morts, intimement liée à l'épée de vérité, avait en fait pour objectif de préserver la vie. Le rapport était facile à faire, d'autant que le pouvoir ordénique, ultimement, avait pour mission de défendre la vie contre les ravages de la chaîne de flammes. En résumé, l'épée de vérité, le don d'un sorcier de guerre et la magie d'Ordaine étaient inextricablement liés. Cette réflexion amena Richard à repenser au premier sorcier Baracus. Des milliers d'années plus tôt, cet homme avait écrit un livre intitulé « Les secrets du pouvoir d'un sorcier de guerre ». À travers les siècles, l'ouvrage était destiné à Richard afin de l'aider à mener à bien sa quête. L'ouvrage était toujours à Tamarang, à l'endroit où Richard l'avait caché après avoir été capturé par Sis. Zed était en route pour Tamarang, où il espérait libérer son petit-fils du sortilège dessiné dans les grottes sacrées qui le privaient de son pouvoir. Richard étant de nouveau en possession de sa magie, ça impliquait que le vieil homme avait atteint sa destination et rempli sa mission. Depuis qu'il avait recouvré son don, Richard se souvenait de nouveau de chaque mot du grimoire des ombres recensées. Mais Nietzsche était convaincu qu'il s'agissait d'une mauvaise copie qu'il ne fallait surtout pas utiliser pour ouvrir la bonne boîte d'Ordaine, et si elle pensait ça, Richard ne voyait pas pourquoi il l'aurait contredite. Cependant, la magicienne était persuadée que l'ouvrage contenait presque toutes les informations requises. Pour fabriquer une copie inexacte, il suffisait en effet d'altérer un minimum d'éléments, de préférence très importants bien entendu. Cela n'impliquait pas que toutes les informations contenues dans le grimoire soient bonnes à mettre au rebut. Richard avait récité le texte à son ami, et ils avaient pris des notes très précises, en particulier sur les indications permettant de tracer des diagrammes. Grâce à ce matériel, dès qu'il aurait mis la main sur l'original du grimoire, Richard pourrait comparer, faire une sélection et exécuter toute la procédure dans le bon ordre. Grâce à ce travail, Nietzsche savait très exactement ce qu'elle devait enseigner à Richard. Et son élève était déjà bien plus avancé qu'elle l'aurait cru, parce qu'il avait déjà analysé et compris une bonne partie des éléments clés requis. En d'autres termes, il connaissait bon nombre des composants de magie nécessaires pour dessiner un sortilège. Mieux encore, il les avait représentés sur le visage et le corps de ses équipiers, sans parler du sien. La danse avec les morts lui avait enseigné les données fondamentales, le dotant d'une intuition phénoménale dès qu'on abordait le sujet. En réalité, il ne s'agissait pas d'intuition, mais de savoir, et c'était encore mieux comme ça. Dessiner un sortilège n'était pas uniquement le prolongement logique de la pratique maîtrisée de la danse avec les morts. Cela avait un rapport avec sa manière de manier une lame et sa technique de sculpteur. Toutes ces activités, apparemment différentes, avaient en réalité des points communs fondamentaux. Chacune reposait sur une parfaite coordination des mouvements et une fluidité impeccable dans leur enchaînement. Richard avait été surpris de voir à quel point les détails s'intégraient parfaitement à une image plus générale. Alors qu'il s'exerçait à tracer les sortilèges que Nietzsche lui enseignait, il n'éprouvait quasiment aucune difficulté. En réalité, la tâche lui semblait même enfantine parce qu'il connaissait déjà les emblèmes et, dans leur configuration, il reconnaissait certains passages de la danse avec les morts, mais aussi des séquences de mouvements qu'il fallait savoir exécuter avec une lame, qu'il s'agisse de celle d'une épée ou d'un burin. Nietzsche était un professeur hors du commun parce qu'elle comprenait comment son élève voyait ses divers pouvoirs et de quelle façon il entendait les utiliser. Contrairement à tous les autres proches du sourcier, elle saisissait en profondeur comment il concevait l'usage de la magie. Consciente que cette façon d'appréhender les choses n'avait rien de traditionnaliste, Nietzsche ne s'en offusquait pas, comme aurait pu le faire une personne moins ouverte, Anna par exemple, que les esprits du bien prennent soin de son âme. Loin de déconcerter l'ancienne maîtresse de la mort, l'originalité de Richard la stimulait. Comprenant également sa vision très particulière de la magie comme une forme d'art et donc une affaire de créativité, Nietzsche ne corrigeait pas les travaux de son élève. Elle les orientait afin de l'aider à obtenir le résultat qu'il désirait. Dans leur relation pédagogique, il n'était jamais question d'apprendre par cœur des listes interminables de notions. Pour avancer plus vite, Nietzsche utilisait comme fondation tout ce que Richard savait déjà et la manière dont il reliait entre elles ses vastes connaissances. Consciente qu'il avait déjà compris intuitivement une impressionnante quantité de données, elle ne perdait pas de temps à réviser les notions de base qu'il maîtrisait depuis très longtemps. En revanche, elle l'aidait à ajouter des éléments lorsqu'il en avait besoin, à l'endroit où il les lui fallait et au moment où il le désirait.
« Alors, comment t'en sors-tu ? »
demanda-t-elle en revenant vers la table en acajou. Richard bâilla à s'en décrocher la mâchoire.
« Je n'en sais plus rien. Tout se mélange dans ma tête. »
Sans lever les yeux du livre qu'elle évaluait pour Richard, l'ancienne maîtresse de la mort acquiesça distraitement.
« Ce que tu prends pour un mélange est la preuve que ton cerveau est en train de produire des associations et des connexions. En d'autres termes, il organise et fédère toutes les connaissances que ton esprit a récemment assimilées. »
« Espérons que ce soit ça. »
Nietzsche ferma son livre et le posa sur la table.
« J'ai repéré des passages très utiles. Tu devrais y jeter un coup d'œil. »
« Pour le moment, je crains de ne pas pouvoir lire une ligne de plus. »«
D'accord. »
Nietzsche désigna la plume qui reposait sur une écritoire à côté d'une pile de grimoires.
« Dans ce cas, dessine. Tu dois être en mesure de représenter les éléments essentiels du livre que tu viens de finir. Si des éléments similaires se trouvent dans la version authentique du grimoire des ombres recensées, tu auras plusieurs longueurs d'avance sur tous tes adversaires. »
Richard voulut souligner qu'il était également trop épuisé pour dessiner, mais il pensa à Callan et oublia aussitôt sa lassitude. De toute façon, il avait accepté que Nietzsche soit sa formatrice et il entendait lui obéir scrupuleusement et sans ménager ses efforts. Les connaissances, l'expérience et les compétences de Nietzsche émerveillaient quelqu'un de si naturellement placide que Z. Verna elle-même, alors qu'elle ne se tenait pas pour une quantité négligeable, avait conseillé au sourcier de se fier aveuglément à la magicienne parce qu'elle était plus fine et plus intelligente que tous ses autres amis. Richard savait qu'il avait une occasion magnifique de combler ses lacunes. Pour ne pas gâcher cette possibilité, il était disposé à produire bien des efforts. Après s'être emparé d'une feuille de parchemin, il plongea la plume dans l'encrier, prit une grande inspiration et entreprit de copier les sortilèges qu'il venait de trouver dans le livre encore ouvert devant ses yeux. Un des problèmes majeurs du sourcier était lié au sable de sorcier. D'après la version du grimoire des ombres recensées qu'il avait mémorisé, le sortilège destiné à ouvrir la bonne boîte d'Ordaine devait être tracé dans cette matière rare et précieuse. À en croire Nietzsche, même s'il avait appris par cœur une copie imparfaite, l'utilisation du sable de sorcier était une condition incontournable à la réussite du sortilège ordénique. Sans ce support, ce n'était même pas la peine d'essayer. Hélas, quand Darkenral avait ouvert la mauvaise boîte,
Il avait été aspiré par la terre avec tout le sable de sorcier qu'il avait utilisé. Dans le jardin de la vie, on ne trouvait plus aucune trace de cette noble matière. À la place, il ne restait que de la poussière. Nietzsche cessa un instant de feuilleter un nouveau livre.
« Je viens de trouver quelques informations intéressantes sur le Temple des Vents, »
annonça-t-elle. « Vraiment ?» lança Richard intéressé.
« Ce qui m'a surprise, » dit Nietzsche, ignorant la question, « c'est que tu affirmes être passé par le royaume des morts pour entrer dans ce sanctuaire. »
Le temple lui étant apparu pendant un orage, Richard avait traversé une route tant que son objectif était visible.
« Désolé, mais je t'ai dit tout ce que je sais sur le sujet. »
« Selon tes dires, des connaissances que tu as glanées dans de très anciens livres, le Temple des Vents fut envoyé dans le royaume des morts parce qu'on voulait le mettre à l'abri. En toute logique, il devait se dresser dans les profondeurs du domaine du gardien, puisqu'on voulait empêcher que quiconque y entre. »«
Tu as raison, mais les faits restent têtus. Le temple n'était pas loin du tout le jour où je m'y suis introduit. »
Nietzsche se replongea dans sa lecture, faisant les 100 pas pour mieux se concentrer. Elle finit par s'immobiliser, l'air agacé.
« Je ne comprends toujours pas. Dans le royaume des morts, on ne va pas d'un point à un autre comme dans le monde des vivants. Tout y est beaucoup plus compliqué. Ce que tu me racontes revient à dire qu'il suffit d'une enjambée pour traverser un océan et se retrouver sur une île qui est en réalité située à l'autre bout du monde.
Le temple des vents est peut-être à l'entrée du royaume des morts. » « L'île de ta comparaison ne se trouve sans doute pas à l'autre bout du monde, et ça explique tout. »«
Une bonne idée, mais qui ne colle pas avec ton récit, ni avec mes récentes lectures. Toutes les sources sont d'accord sur un point. Pour envoyer le temple en sécurité, on lui fit traverser le royaume des morts, un peu comme si on avait décidé de l'expédier à l'autre bout de l'univers. »«
Seigneur Hall, »
appela soudain Kara, debout sur le seuil de la pièce. Richard ne put étouffer un nouveau bâillement.
« Que veux-tu, Kara ?
Je vous amène des visiteurs très pressés de vous voir. »
Même s'il rêvait de se reposer un peu, Richard n'avait aucune intention de s'autoriser une pause. S'il voulait récupérer Callan, il ne pouvait pas se permettre de l'embiner.
« Je pense que c'est important, »
précisa la mort de Sith quand elle vit son seigneur hésiter.
« Dans ce cas, fais-les venir. »
Kara revint très vite, avec 5 hommes et une femme en robe blanche immaculée. Dans la pénombre de la bibliothèque, ces 6 personnages brillaient presque comme des esprits du bien. Avec un bel ensemble, ils s'immobilisèrent devant la table en acajou. À leur expression, Richard comprit qu'ils étaient terrorisés. Richard interrogea Kara du regard.
« Des membres de l'équipe de la crypte, »
dit la mort de Sith.
« Des serviteurs qui se consacrent à la crypte ?»
« Oui, seigneur Hall, il s'occupe des tombes et de tout ce qu'il y a autour. »
Richard tenta de croiser le regard de ses visiteurs, mais ils détournèrent ou baissèrent tous la tête.
« Je me souviens de vous avoir vu le jour de mon retour mouvementé, juste avant que nous nous frottions à une horde de soldats ennemis. »
Nettoyer ce charnier avait dû être une tâche de titan. Les défenseurs ayant mieux à faire que jouer les fossoyeurs, Richard avait ordonné qu'on jette les cadavres des ennemis au pied du haut plateau, un travail qui n'avait pas dû être agréable.
« Que voulez-vous me dire ?»
demanda le sourcier d'humeur conciliante.
« Seigneur Hall, »
intervint Kara.
« Ils sont tous muets. »«
Tous les 6, vraiment ?»
Darken Hall faisait couper la langue aux serviteurs de la crypte, sans doute pour éviter qu'ils disent du mal de son père lorsqu'il ne les entendait pas.
Richard blêmit un peu à l'idée qu'on puisse traiter ainsi des êtres humains.
« Désolé qu'on vous ait torturé ainsi, » dit-il aux 6 visiteurs. « Si ça peut vous consoler, sachez que je partage vos sentiments au sujet de mon défunt père. »
« Je leur ai dit que vous n'étiez pas étranger à sa mort, »
précisa Kara. Les visiteurs sourirent et hochèrent la tête.
« Alors, mes amis, pouvez-vous m'aider à comprendre ce que j'ai du mal à saisir ?»
Un homme approcha et posa sur la table un petit paquet d'un blanc immaculé. Alors que Richard s'en saisissait, une goutte d'encre coula de sa plume et vint s'écraser sur le tissu étincelant.
« Désolé, » dit-il avant de poser la plume.
« Qu'est-ce que c'est ?
demanda-t-il à tous ses visiteurs, comme s'il avait décidé de ne pas les individualiser au-delà du strict nécessaire. Rien ne se passant, le sourcier interrogea Kara du regard.
« Il voulait à tout prix vous remettre ce petit ballot. »
Par geste, un des hommes indiqua à Richard qu'il devait ouvrir le paquet.
« Je dois déballer ce qu'il y a dedans ?»
demanda Richard au six domestiques. Tous acquiescèrent. À en juger par son poids, le petit paquet ne pouvait pas contenir grand-chose. Pourtant, sous le regard fasciné de Nietzsche, le sourcier entreprit d'ouvrir le carré de tissu blanc. À l'intérieur, il découvrit un unique grain de sable blanc.
« Où l'avez-vous trouvé ? »
demanda-t-il. Six index désignèrent le sous-sol.
« Par les esprits du bien !»
soupira Nietzsche.
« Quelqu'un consent à m'expliquer ? »
s'agaça Kara.
« Je ne vois qu'un fichu grain de sable. »
« Mais c'est du sable de sorcier. »
Puisqu'il travaillait dans la crypte, les souffres-douleurs de l'ancien seigneurial avaient dû y trouver leur étrange butin. Bien sûr, le sable de sorcier brillait à la lumière prismatique, mais de là à repérer un unique grain, même s'il aurait tout donné pour dormir une heure, Richard se devait d'enquêter avec ses amis.
« Pouvez-vous me montrer l'endroit où vous l'avez trouvé ?»
Six têtes acquiescèrent avec une joie presque enfantine. Richard replia méticuleusement son carré de tissu autour de l'énigmatique grain de sable. Ce faisant, il vit que la goutte d'encre, parce que le tissu était plié, avait laissé une trace noire sur deux coins opposés du mouchoir. Lorsque le ballot était fermé, ces deux petits soleils noirs reposaient l'un sur l'autre. Quand on l'ouvrait, au contraire, les taches noires se trouvaient à deux extrémités radicalement opposées. Le sourcier réfléchit quelques instants, puis il se décida.
« En route »
lança-t-il en glissant le petit paquet dans sa poche.
« Mes amis, je vous suis !»